VOA Afrique, les infos. À Washington, Nicolas Pinault.
Bonjour à tous, il est 16h temps universel, tout de suite le point sur l'actualité. L'armée congolaise affirme avoir reconquis un groupe de villages au FDLR dans le sud Kivu. Selon un officier joint par l'agence France-Presse, Mulenge, les villages environnants ont été vidés des rebelles hutu-rwandais. Ils seraient à présent retranchés dans la forêt de Kitavu, Kambegere. Attaque contre le palais présidentiel à Mogadiscio, des tirs d'obus de mortier se sont abattus dans l'enceinte ultra sécurisée du palais présidentiel somalien. Aucune revendication pour le moment. Par le passé et encore récemment, les Shabab somaliens liés à Al-Qaïda avaient mené une série d'attaques contre des bâtiments officiels. Après Bangui hier, la procureure de la Cour pénale internationale entame aujourd'hui une visite en Ouganda. Fatou Bensouda entend fournir aux autorités et à la population un état d'avancement de son dossier contre l'un des anciens chefs de la LRA, Dominique Ongwen. Ongwen s'était rendu en janvier en Centrafrique avant d'être transféré à La Haye, où il est accusé de 7 crimes contre l'humanité et crimes de guerre, notamment de réduction en esclavage et de traitement cruel. La CPI a au total inculpé 5 chefs de la LRA qui sévit depuis près de 30 ans en Afrique centrale. Les États-Unis ont mis un terme ce jeudi à leur opération militaire pour combattre l'épidémie d'Ebola au Libéria. L'importance des progrès que nous voyons aujourd'hui signifie plus qu'une diminution du nombre de cas confirmés ou suspects d'Ebola. Ces progrès se voient aussi à travers la capacité des Libériens à reprendre une vie normale. C'est ce qu'a déclaré le général Gary Woleski, chef de l'opération militaire américaine, lors d'une cérémonie à Monrovia. Paul Kagame est attendu demain à Paris pour une réunion à l'UNESCO, mais ne rencontrera aucun responsable politique français. La tension reste vive entre la France et le président rwandais qui accuse Paris de complicité dans le génocide de 1994. En avril 2014, lors des commémorations du 20e anniversaire du génocide, Paul Kagame avait réitéré ses accusations contre la France d'avoir participé au massacre de 1994, qui avait fait, je vous le rappelle, quelques 800 000 morts selon les Nations Unies. Kidal est malien, je suis contre l'indépendance, même l'autonomie. C'est en ces termes que le nouveau chef coutumier de Kidal, Bastion Touareg, de l'extrême nord-est du Mali, s'est exprimé au sujet de l'autonomie du nord du pays. Il s'agit là d'un message clair de paix envers Bamako. Les détails avec Saloua Jafari.
Mohamed Akintala tourne ainsi le dos aux ambitions séparatistes de beaucoup. Deux mois seulement après avoir succédé à son père, comme Aménokal, le nouveau chef traditionnel des Adrars des Infogas s'est dit contre l'indépendance du Nord pour l'unité territoriale, selon l'agence France-Presse. Il va même jusqu'à souhaiter que Kidal devienne capitale du Mali. Agintala prend ainsi délibérément le contre-pied de certains groupes rebelles Touareg, actuellement en négociation avec le gouvernement à Alger, revendiquant l'autonomie d'Azawad. Et pour faire passer son message de paix, le coutumier de Kidal est prêt à sillonner le Mali avec d'autres chefs de communauté. En attendant, la paix reste très fragile dans la région. Depuis l'été dernier, la zone a connu une recrudescence d'attaques, notamment djihadistes, visant les forces maliennes ou étrangères, mais aussi civiles.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans le reste du monde, nouveaux attentats en Égypte. Au moins une personne est morte dans une série d'explosions au Caire, selon le ministère égyptien de la Santé. Les détails avec Jean-Roger Billon.
La première bombe a explosé devant une pizzeria, explique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Trois autres ont visé des opérateurs de téléphonie mobile. Une dernière explosion a été ressentie dans le quartier pauvre d'Al-Warak. Selon le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi, plus de 500 policiers et soldats ont été tués dans tout le pays par des attentats et attaques depuis juillet 2013. Ce n'est pas la première fois que l'Égypte est visée par des attentats, mais généralement, ils ont lieu contre les forces de sécurité dans le Sinaï. Les attaques les plus meurtrières sont revendiquées par la branche égyptienne du groupe État islamique Ansar Beit al-Maqdes. Au Caire, de nombreux attentats contre la police ont été revendiqués par le groupe djihadiste Ajnad Maser.
L'OTAN est particulièrement préoccupée par la terrible situation en Libye. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord se dit prête à soutenir pour sa sécurité ce pays plongé dans le chaos. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. « Nous sommes particulièrement préoccupés par la terrible situation en Libye », a déclaré M. Stoltenberg au cours d'une conférence de presse à Rome, à l'issue d'un entretien avec le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi. Et puis début du retrait des armes lourdes ukrainiennes de la ligne de front dans l'Est séparatiste pro-russe, conformément aux accords signés le 12 février à Minsk. C'est ce qu'a annoncé à Kiev dans un communiqué l'état-major des armées. Les précisions avec Eddy Isango.
Pour l'Ukraine, il s'agit assurément d'un premier pas vers les retraits des armes lourdes qui va se faire sous la surveillance de l'OSCE, l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe. L'armée ukrainienne avertit cependant qu'elle est prête à revoir les calendriers du retrait en cas de tentatives d'assaut de la part des rebelles pro-russes, rapporte l'AFP. Les cessez-le-feu instaurés à partir du 15 février semblent enfin tenir ces derniers jours dans l'Est séparatiste de l'Ukraine, où le conflit a fait plus de 5800 morts en 10 mois.
Par ailleurs, mise en garde de Moscou à l'Occident, imposer des sanctions supplémentaires à la Russie montrerait que les Occidentaux ne sont pas sérieux dans leur recherche d'une trêve dans l'est de l'Ukraine. Les États-Unis et l'Union européenne ont menacé hier d'imposer de nouvelles sanctions aux séparatistes pro-russes et à la Russie si Moscou ne cesse d'appuyer les opérations des séparatistes dans l'est de l'Ukraine.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Lors d'une audience au Congrès, le secrétaire d'État américain John Kerry a attaqué indirectement le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, déclarant que ceux qui critiquent un éventuel accord nucléaire avec l'Iran ne savent pas de quoi ils parlent. Le point avec Camille Grosdidier.
L'administration Obama aurait-elle déclenché une offensive contre le premier ministre israélien, invité par l'opposition républicaine à prononcer en mars un discours devant les deux chambres du Congrès? Le président Obama a déjà indiqué qu'il ne rencontrera pas Benjamin Netanyahou à cette occasion, au motif qu'il ne veut pas s'immiscer dans la campagne pour les législatives prévue le 17 mars en Israël. Mais mardi, sa conseillère à la sécurité nationale, Susan Rice, a estimé sur une chaîne de télévision américaine que le discours de Netanyahou au Congrès allait introduire une partialité destructrice dans les relations bilatérales entre les États-Unis et Israël. Pour sa part, le secrétaire d'État John Kerry a semblé dire aux parlementaires américains que M. Netanyahou ne comprend rien lorsqu'il accuse les grandes puissances d'avoir trahi leur promesse d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. La politique actuelle est que l'Iran n'obtiendra pas l'arme nucléaire, a rappelé M. Kerry. Il n'y a pas encore d'accord et je conseille aux gens d'attendre l'issue de ces négociations. En fait, la Maison-Blanche ne semble pas avoir pardonné au président de la Chambre, le républicain John Boehner, d'avoir invité M. Netanyahou sans consulter le gouvernement.
Le nombre de chrétiens assyriens enlevés depuis lundi par le groupe extrémiste État islamique en Syrie s'élève à 220 au total. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pas moins de 220 assyriens ont été enlevés dans 11 villages par le groupe EI au cours des trois derniers jours dans la province d'Asaké, dans le nord-est, bordée par la Turquie et l'Irak. C'est ce qu'a indiqué l'ONG. L'OCDH avait dans un premier temps fait état de 90 enlèvements. Et puis le médiateur de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, est attendu ce vendredi à Damas, où il s'entretiendra au lendemain avec le responsable d'un gel des combats à Alep. C'est ce qu'affirme ce jeudi la presse syrienne. Monsieur de Mistura discutera ce samedi de sa proposition au ministère syrien des Affaires étrangères, affirme le quotidien Al-Watan, proche du pouvoir, citant des sources bien informées. Monsieur de Mistura avait indiqué mi-février que le régime syrien était disposé à suspendre ses raids aériens et ses tirs d'artillerie sur Alep pendant 6 semaines pour permettre un cessez-le-feu localisé. Et puis on va parler de cette nouvelle, la consommation de cannabis est désormais légale ici à Washington. En revanche, il est toujours interdit d'en acheter, d'en vendre et d'en fumer en public. Le point avec Félix Yepassi Zemrou.
Cette nouvelle loi est entrée en vigueur aujourd'hui, peu après minuit, heure locale. Elle avait été votée en novembre dernier par les électeurs de la capitale lors d'un référendum. Concrètement, ce texte permet aux adultes d'au moins 21 ans de posséder de la marijuana. Il est également légal d'en fumer 200 grammes et d'en faire pousser de petites quantités. La capitale des États-Unis emboîte ainsi le pas à l'Alaska, au Colorado et à l'État de Washington qui ont eux aussi légalisé l'usage récréatif du cannabis. Mais la capitale n'étant pas indépendante, les législateurs peuvent s'opposer à cette loi et prendre des mesures punitives contre la ville, car l'autorité du Congrès prévaut sur les décisions prises à l'échelle de la ville.
Parlons de sport, à présent la CAN des moins de 17 ans au Niger, la deuxième demi-finale en cours, c'est la mi-temps et pour le moment ce sont les Aiglons du Mali qui mènent 1-0 face au Sili National de Guinée. Le vainqueur de ce match rencontrera en finale les Sud-Africains qui avaient vaincu hier le Nigeria 1-0, c'était dans l'autre demi-finale. On suivra ça évidemment, il reste 45 minutes de jeu actuellement à Niamey. Ainsi va s'achever ce bulletin d'information. Prochain point sur l'actualité à 17h, temps universel sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur